Vous écoutez RTL.
Posez toutes vos questions à l'invité de RTL Matin en appelant le 3210.
8h23, Benoît Hamon, merci d'être resté avec nous. Vous allez dialoguer avec les auditeurs d'RTL dans un instant. Je vois qu'il y a des questions qui se profilent, notamment sur le revenu universel. Auparavant, on vous interroge beaucoup, et c'était le cas avec Elisabeth Martichaud, qui nous a rejoint aussi il y a quelques instants, sur le caractère social de vos propositions si vous êtes élu président de la République. On parle moins parfois, notamment d'actualité internationale. Alors ce matin, Bachar el-Assad s'exprime sur l'antenne d'RTL. Il dit qu'il assume tout ce qui s'est passé dans son pays et renvoie la France à son intervention en Libye en matière de droits de l'homme, pour nous dire, il n'y a pas que moi à qui on doit demander des comptes sur les droits de l'homme. Comment réagissez-vous déjà à la situation et surtout à l'avenir de Bachar el-Assad ?
Je trouve ça incroyable. Incroyable qu'un homme qui a délibérément bombardé sa population civile, femmes, enfants, utilisant des armes chimiques, bombarder des hôpitaux avec la complicité de la Russie, puisse se poser aujourd'hui comme donneur de leçons alors qu'il devrait relever des tribunaux internationaux. Première chose. La deuxième chose, c'est que je trouve incroyable qu'on lui trouve des excuses ici en France, quand j'écoute M. Fillon ou M. Mariani qui va s'asseoir à côté de lui, au motif que toute guerre est sale et qu'il faudrait accepter qu'il y ait des victimes civiles. J'ai bien conscience que la Syrie n'a pas signé la Convention de Genève, mais nous, on en sommes un des signataires et on devrait s'enorgueillir de le rappeler à chaque fois. Pour obtenir quoi en plus ? Pour obtenir de M. Bachar el-Assad qu'il nous autorise à avoir un strapontin dans les négociations qui vont avoir lieu à Astana sous l'égide des Iraniens, des Turcs et des Russes, mais M. Bachar el-Assad n'est même pas invité par les Russes à Astana, c'est dit l'idée que s'en fait M. Poutine. Et nous, on en est arrivé aujourd'hui, je le redis, M. Fillon à travers M. Mariani, à aller venir faire la courte échelle à Bachar el-Assad. Je trouve que ça n'est pas digne du pays qui est le nôtre. Ça n'est pas digne de la France que de se prêter à ce genre de panilodie.
On doit l'ignorer, parce que vous savez, ceux qui se présentent comme des pragmatiques pour justifier notamment les rapports avec le pays aujourd'hui disent, on ne peut pas l'ignorer, il faut bien lui parler, les relations internationales, ça fonctionne comme ça.
Mais parlons aux Russes. Oui, il faut parler aux Russes. Bachar el-Assad ne sera pas à Astana. Pourquoi le remettre dans le jeu ? La réalité, c'est que la solution politique, nous savons, elle doit être discutée. Il n'y a pas d'autre voie qu'une solution politique. Mais là où moi, je suis mécontent du format des discussions, c'est qu'il manque les Nations Unies, il manque l'Union Européenne, et il manque aussi les sociétés arabes. Et je ne pense pas qu'on puisse régler une question aussi importante que celle de la Syrie et de des pays autour sans les sociétés arabes. Voilà.
On revient à l'actualité politique française et en particulier à caractère social et économique après les points que vous avez développés tout à l'heure avec Elisabeth Martichoul. Le premier auditeur qui vous interroge ce matin s'appelle Philippe. Bonjour Philippe.
Oui, merci. Bonjour M. Calvi, bonjour M. Hamon.
Voilà,
bonjour,
vous pouvez vous adresser directement à Benoît Hamon.
Alors, j'ai une question en fait qui est à deux niveaux. L'industrie française est en mauvaise posture. Je suis bien placé pour vous en parler, j'y travaille. Vous n'avez pas peur avec vos mesures, en particulier le relèvement du SMIC, de casser le peu de compétitivité qui nous reste. Et donc, si vous cassez ce peu de compétitivité, de provoquer un chômage massif, justement, sur ceux que vous souhaitez soutenir au maximum, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas beaucoup de formation et qui n'ont pas d'autres emplois possibles, justement, que l'industrie.
Philippe, Benoît Hamon vous répond.
Bien, d'abord, merci Philippe pour cette question. L'option que je propose, effectivement, c'est de relever les minima sociaux pour redonner du pouvoir d'achat à ceux qui sont les plus pauvres. Je rappelle que quand vous redonnez du pouvoir d'achat aux personnes modestes, elles ne l'épargnent pas, elles le consomment. Donc c'est bon pour notre économie. De surcroît, j'observe que malgré le fait qu'on ait mis sur la table 40 milliards d'euros de baisse du coût du travail à travers le CICE et le pacte de responsabilité, qui est une baisse de cotisation sociale patronale, nous n'avons eu ni la croissance, ni la réduction du chômage. Elle intervient maintenant, mais largement due au fait que nous avons organisé avec le service public de l'emploi, Pôle emploi, un plan exceptionnel de formation des demandeurs d'emploi. Donc, je constate l'échec des stratégies qui, jusqu'ici, pariaient sur la croissance, l'amélioration de la compétitivité de nos entreprises. Par quoi ? Par l'augmentation de la productivité. Je vous invite à lire, c'est pour ça qu'une présidentielle est un moment particulier, je vous invite à lire toutes ces études, dont les dernières recommandations d'un des grands économistes du FMI, M. Blanchard, qui dit « Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on augmente la productivité sans que ça se traduise par de la croissance. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la révolution numérique est en train d'avoir comme impact sur nos économies, c'est qu'on augmente la productivité sans que cela ait un impact sur la croissance, donc sur l'emploi. Il y a une raréfaction du travail qui conduit à ce que se développe un chômage de masse. Et quel est le partage du travail aujourd'hui en France? Il est entre ceux qui travaillent et sont contents de travailler, et ont un salaire correct, ceux qui sont ici autour de cette table, ceux qui ne travaillent pas et aimeraient travailler plus, et au milieu, ceux qui travaillent et sont surmenés, n'en peuvent plus. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir de quelle manière ce partage du travail ne se fait pas de manière sauvage, arbitraire, mais comment on le maîtrise. D'où la proposition du revenu universel, et d'où l'encouragement qui est le mien, à ce que l'organisation du travail évolue dans les PME, dans les ETI, dans les grandes entreprises. Comment? En conditionnant les baisses de cotisations sociales patronales, et je les veux significatives, à une réduction du temps de travail et à des créations d'emplois à la clé.
Alors, il y a beaucoup de remarques à vous faire, mais au sens propre du débat, sur ce que vous venez de nous dire, je vous propose de ne pas les faire, mais de donner la parole à Philippe, un autre Philippe, qui lui aussi vous interroge sur le caractère social de vos mesures. Vous allez voir, il y a une continuité, on va dire, d'esprit. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour Monsieur Hamon, bonjour Monsieur Cathy.
Bonjour Monsieur.
Bon, vous dites que vous allez augmenter de 10% les minima sociaux. Déjà, première question, comment vous allez faire? Et deuxièmement, est-ce que c'est d'augmenter les minima sociaux ou de baisser la vie qui serait mieux? Et pour baisser la vie, il faut baisser toutes les charges. Moi, je fais 80 heures par semaine. Je n'ai pas envie d'en faire moins pour avoir un salaire décent.
Alors,
contrario de ce que vous annoncez.
Réponse de Benoît Hamon.
Ce qui est incroyable, c'est qu'il faille faire 80 heures par semaine pour avoir un salaire décent. Ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est qu'on soit obligé d'être chauffeur Uber pour compléter un revenu qui est un tout petit revenu. Ce qui est incroyable, c'est qu'on soit obligé d'être artisan taxi, justement, et travailler des heures et des heures et des journées extrêmement longues pour pouvoir avoir un revenu, et une fois défalqué des charges, qui vous permet à peine de vivre. Ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est qu'on accepte d'être à ce point, sous la pression du travail, pour ne tirer qu'un revenu qui est un revenu qui sert tout juste à vivre. Et la question que je veux poser à ce monsieur, c'est, est-ce qu'on continue avec ce partage du travail qui veut qu'il y ait 5 millions de personnes en dehors de l'emploi, tant de personnes qui travaillent tant pour un revenu si modeste, ou est-ce qu'on s'attaque à un nouveau partage du travail? C'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte qu'il soit bienveillant, au sens où on n'ait plus besoin de travailler 80 heures, alors ceux qui le veulent le peuvent, encore que je leur conseille assez peu pour leur santé à venir, mais qu'on n'ait plus besoin de travailler 70 à 80 heures pour tirer un revenu qui est un revenu qui vous permet tout juste de vivre. Je suis frappé de voir que dans ce débat de la présidentielle, on évoque beaucoup la société du travail, et beaucoup de responsables politiques, qui sont eux aussi heureux d'aller travailler le matin, nous disent « Écoutez, le travail c'est formidable, on s'y épanouit, on y est utile. » C'est vrai.
Ça fait trois fois, pardonnez-moi, depuis ce matin que vous abordez la question de ceux qui travaillent, en ayant l'air de dire qu'ils sont des privilégiés, non, et de toute façon leur mode de vie n'est plus la norme. Oui, la société évolue, mais il ne faut peut-être pas exagérer. Il y a 6 millions de chômeurs dans le pays, Benoît Hamon.
Yves Calvi,
il va bien falloir leur trouver un boulot, en tout cas pour une partie d'entre eux.
Non, mais ça ne m'a pas échappé, c'est le but du revenu universel et de la réduction du temps de travail. C'est que tout le monde puisse avoir un travail. Mais arrêtons de considérer aujourd'hui que le travail est le seul moyen par lequel on s'épanouit. Parce que ça n'est pas vrai. J'évoquais tout à l'heure avec certains de vos confrères la situation de ces mamans célibataires qui ont un travail à horaire décalé et qui sont les premières, dès qu'on leur en offre l'opportunité, à choisir de réduire leur temps de travail parce que elles sont dans des situations où elles ne peuvent pas vivre avec un petit salaire, un temps de travail qui les empêche de pouvoir éduquer leurs enfants. Ce sont ces femmes, ces hommes que nous devons avoir comme priorité dès lors qu'on est responsable politique et président de la République. Ce sont elles et eux à qui je veux m'adresser prioritairement.
Dans un instant, c'est Muriel qui vous interroge sur les retraites. Benoît Hamon est avec nous. Vous continuez de nous appeler, de réagir au 3210.
RTL Matin, 8h30. Posez toutes vos questions à l'invité de RTL Matin en appelant le 3210.
Et c'est donc Benoît Hamon qui est resté avec nous pour débattre avec vous et répondre à vos questions. Nous allons maintenant donner la parole à Muriel qui nous appelle des Hautes-Pyrénées. Bonjour Muriel.
Bonjour Monsieur Calvi, bonjour Monsieur Hamon.
Bonjour Madame.
Je vais vous poser une petite question très simple et très courte. Je vous expose un petit peu avant mon cas, et qui n'est pas, je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Je suis à la retraite, je vis avec 535 euros par mois. J'ai élevé 4 enfants, j'ai été collaboratrice non rémunérée de mon ex-mari pendant pas mal d'années. Donc ma question est, que comptez-vous faire pour les petites retraites ?
Revenu universel viendra en complément des pensions. 600 euros pour tous les retraités en plus de la pension. Le principe du revenu universel, il est celui-là aussi. C'est-à-dire redonner de l'air et de la respiration à celles et ceux qui, à la retraite, au terme d'une vie souvent consacrée au travail, reconnue ou pas, comme madame qui était collaboratrice non rémunérée de son propre mari, on ne se retrouve pas dans une situation où la fin de votre vie est absolument chaotique et insupportable.
Pardonnez-moi, 600 en plus des autres allocations pour que les choses soient très précises.
Pas de toutes les allocations, mais je pense que par exemple l'AAH devrait être sortie, ce sera en plus de l'AAH par exemple, mais ce sera, par contre, les APL seront englobés dans le revenu universel.
Allocation handicapée. Hein,
oui, l'AAH ne sera pas dans le revenu universel, les APL seront dedans.
Elisabeth qui vient de le préciser. Sauf que vous nous avez dit tout à l'heure dans votre entretien avec Elisabeth que ce n'était pas pour tout de suite le revenu universel et que ça mettait du temps à se mettre en place.
Mais j'apporte une réponse.
Notre auditrice, elle s'inquiète pour la
revalorisation des minima sociaux comprend évidemment aussi le minimum vieillesse. Et donc, il y aura des mesures de revalorisation du minimum vieillesse. Mais moi, je m'attache à dégager des solutions durables. Et des solutions durables, elles sont valables pour les décennies à venir. Je suis assez frappé de voir comment le débat politique est un débat, finalement, aujourd'hui, même à gauche, de court terme. C'est-à-dire qu'on est là, les uns les autres, à vouloir une mesure pour les PME, une mesure pour le crédit, une mesure fiscale.
Une mesure
non, mais je vous parle du
terme.
Débat. Mais je dis revalorisation des minima sociaux et donc du minimum vieillesse, c'est ma réponse à court terme. Mais au-delà, le revenu universel, je le revendique, c'est une réponse structurelle à un enjeu fondamental. Il y a moins de travail, c'est par le travail qu'on finance la protection sociale. Si on ne pense pas à une nouvelle protection sociale, nous n'en aurons plus.
Bonjour Jean-Michel, merci à Muriel de nous avoir appelé. Vous êtes agriculteur, vous nous appelez de Pressac dans la Vienne et Benoît Hamon vous écoute.
Oui, bonjour Yves Calvi, bonjour Monsieur Hamon.
Bonjour Monsieur.
Monsieur Hamon, vous êtes assez critique sur les produits de protection des cultures et de protection des animaux que nous utilisons en agriculture. Est-ce que vous seriez prêt, personnellement j'en utilise quand j'ai des problèmes, c'est une solution à certains problèmes, est-ce que vous seriez prêt à interdire les importations en contrepartie de votre forte animosité contre ces produits, à interdire les importations de produits agricoles venant de pays utilisant ces produits
évidemment.
Dont vous voulez restreindre l'usage en France.
Évidemment, monsieur. Alors, que ce soit clair. Vous posez un sujet très important. Et d'abord, je salue la lucidité qui est la vôtre et le fait que vous reconnaissiez qu'effectivement, un certain nombre de pesticides peuvent être dangereux pour la santé dès lors qu'il y a des substances persistantes qui peuvent être absorbées par des enfants, par des adultes, et qui peuvent, sous des effets cocktails, avoir des conséquences sur des maladies, qui sont les maladies chroniques. On appelle ça les perturbateurs endocriniens, ils ont des conséquences considérables sur le développement de cancers des testicules, cancers de la prostate, cancers des ovaires, etc. Et aussi des conséquences terribles, potentiellement terribles, pour le développement de l'embryon ou du fœtus pour les femmes enceintes. Première chose. Mais ce que nous dit ce monsieur, et me semble évident, c'est que si on interdit ici des produits pour lesquels il y a un soupçon de dangerosité, alimenté et documenté par les travaux de dizaines de scientifiques. Il est évident qu'on ne va pas faciliter l'importation des mêmes produits fabriqués avec des mêmes aliments, tomates, légumes, etc., fabriqués avec l'aide de ces mêmes pesticides, mais venant d'autres pays européens. S'il y a un soupçon de dangerosité, que nous interdisons l'utilisation de ces produits ici, cela veut dire aussi que nous interdirons l'importation ou la distribution sur nos marchés de produits identiques fabriqués avec les mêmes pesticides ou les mêmes substances dangereuses.
Voilà Jean-Michel, réponse très claire de notre invité ce matin. Merci beaucoup.
Nous avons une base juridique pour ça, hein. Ça s'appelle le principe de précaution inscrit dans la Constitution par Jacques Chirac.
Merci Benoît Hamon d'avoir dialogué ce matin avec les auditeurs d'RTL. Après avoir répondu aux questions d'Elisabeth Martichoux, je précise que Vincent Payon sera demain à votre place.
Qu'il soit le bienvenu.
Très bien, tout cela se passe dans un caractère
détendu
et plutôt amical. Merci Benoît Hamon d'avoir passé cette matinée avec nous. Vous qui nous écoutez, vous continuez de réagir à l'actualité, puisque vous savez, les auditeurs et les électeurs ont la parole, notamment dans RTL Midi.